Voilà, c'était Catherine Ribeiro et Alpes avec les fées Carabosse. Et nous sommes en compagnie, non pas d'une fée Carabosse, mais de Malika. Bienvenue Malika dans ce studio à la maison. Merci d'être venue dans les promesses de l'aube. Et Malika, tu travailles dans le domaine de la santé et donc tu vas nous parler de cette plateforme qui s'est mise en place ces derniers mois qui s'appelle Santé en lutte et qui vise à mettre en avant les impacts négatifs des mesures d'austérité et autres restrictions budgétaires dans le domaine de la santé. Et donc toi, tu es une observatrice privilégiée, tu travailles dans un grand hôpital ici à Bruxelles. Et donc, qu'est-ce que dénonce cette plateforme? On a vu qu'il y a eu différentes actions ces derniers mois. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là aussi et un grand merci pour m'inviter. En fait, plus qu'une plateforme, c'est vraiment une idée de pouvoir faire un mouvement et un mouvement de toutes les personnes qui sont concernées dans la santé. Donc, bien sûr, le personnel qui travaille, infirmières, médecins, brancardiers, sages-femmes, personnel technicien, personnel de nettoyage, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais quand on parle de la santé, ce n'est pas seulement la santé des hôpitaux, sinon on veut essayer de rassembler toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, mais aussi les maisons de repos, les plannings familiaux et donc au sens large. Aussi, la santé en lutte intègre des patients et des patients parce qu'après tout, on est tous concernés par leur santé. Et donc, c'est aussi un mouvement qui est ouvert à la participation de patients.
Et comment ça s'est mis en lutte comment ça s'est mis en place cette plateforme? Parce qu'on sait que justement dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, les conditions de travail sont très dures, mais aussi il y a une volonté de respecter le patient et donc d'avoir ce fameux service minimum. Donc on dit souvent que c'est très difficile pour les infirmières, pour le personnel soignant, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les maisons de repos, d'agir justement parce qu'elles sont confrontées à ce dilemme de devoir être là pour leurs patients qui n'attendent pas et qui ne peuvent pas juste être laissés en plan. Quelle est l'urgence qui a fait que depuis quelques mois, eh bien, ce personnel s'est mobilisé et a fait... D'où c'est parti?
Le premier mouvement qu'il y a eu et qui a été le début de la santé en lutte, c'était le 8 mars passé, donc le 8 mars 2019. En fait, des infirmières de l'hôpital Bruckmann avaient profité du préavis de grève qui avait été laissé par le syndicat pour la journée internationale pour les droits des femmes, donc la grève des femmes de l'année passée. Elles ont profité de cette date pour elles faire grève à l'hôpital et de commencer les revendications qui se passaient. Et après, ça a été un peu en fil en aiguille. Il y a eu d'abord les infirmières de Bruckmann, après il y a eu d'autres hôpitaux. En fait, le secteur de la santé est un secteur que depuis déjà plusieurs années est un des premiers secteurs affectés par les coupes budgétaires. Maggie de Bloch a fait plusieurs millions de coupes budgétaires dans les dernières années, mais c'était un secteur qui n'avait pas été spécialement mobilisé. Mais depuis donc un an, maintenant en mars, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup plus de mouvements. Et en juin, il y a eu la première assemblée et les premières grosses mobilisations de la santé en lutte qui essayaient de rassembler justement toutes ces pétitions. Et ça a été un peu comme une étincelle parce que par après, il y a eu beaucoup de services qui ont décidé de faire une manifestation ou l'autre. Il y a eu les mardis des blouses blanches qui montraient, c'est-à-dire que chaque hôpital ou chaque endroit de santé ou de soins pouvait montrer ses revendications, montrer pourquoi est-ce qu'ils étaient en colère. Voilà, et on a plusieurs revendications dans la santé en lutte. Une des premières est le refinancement des soins de santé avec une transparence sur l'utilisation du budget en santé. L'engagement de plus de personnel. Beaucoup d'endroits ont vraiment un infirmier pour 10, 15, 20 personnes en étant très très loin des quotas européens de santé. Il y a besoin d'une révalorisation salariale de tous les métiers de la santé, un arrêt des précarités des emplois de la santé. Et donc la santé en lutte essaye vraiment de pouvoir montrer qu'en fait on voudrait pouvoir faire notre métier correctement dans des bonnes conditions et que maintenant la santé est devenue plutôt des chiffres et plus que de l'humain. Et donc c'est un peu le logo de dire on veut de l'humain et pas des chiffres.
Et quelles sont les perspectives justement pour ce mouvement? Parce que là, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs informations qui ne vont pas dans le bon sens, on va dire. Il y a eu notamment le rapport qui est sorti sur le fait qu'un certain nombre de maternités devraient fermer si on s'en tient justement à cette logique budgétaire et basée sur les chiffres. Il y a aussi hier ou avant-hier, je pense, mais Guy de Bloch qui a évoqué le fait que dans les négociations pour le gouvernement fédéral actuellement étaient certains partis voulaient complètement diminuer encore de manière plus drastique le budget affecté à la santé. Et donc quelles sont les possibilités que ça aboutisse positivement? Je suis pas très positive ce matin.
Mais que ça aboutisse positivement, je pense que sans mobilisation, on n'y arrivera pas. Alors, la santé en lutte s'organise en assemblée. Donc, il y a eu déjà plusieurs assemblées. Et il n'y a pas eu seulement... Bon, c'est un mouvement qui a commencé à Bruxelles, mais qui après s'est fort répandu. Donc, il y a en tout cas la page Facebook qui essaye de centraliser un peu toutes les actions et toutes les mobilisations beaucoup de personnes qui suivent un peu de partout en Belgique. Mais des assemblées se sont déjà passées à Liège. Et on est en train d'essayer de voir s'il y a des assemblées qui vont se faire aussi à Charleroi. Et justement, il y a une assemblée qui se fait ce vendredi où toutes les personnes, que ce soit toutes les personnes qui travaillent dans la santé au sens large ou des patients, des mouvements qui veulent soutenir sont les bienvenus. C'est ce vendredi-ci au Piano Fabrique à 18h30, donc c'est la prochaine assemblée. Et on est en train de se mobiliser pour faire... de participer à tous les mouvements en tant que bloc de santé ou de santé en lutte dans les différents mouvements et de faire une grosse, grosse manifestation nationale le 29 mars pour la santé.
Et justement, dans ces assemblées, est-ce que vous avez beaucoup de patients aussi? Tu disais au début que tout le monde est concerné par la santé. On va tous au moins une fois dans sa vie voir un médecin, un dentiste, que ce soit pour nous, pour les enfants, pour les personnes âgées qui nous entourent. Est-ce que la mobilisation des patients sera quelque chose de crucial aussi pour que ça marche, que ce ne soit pas quelque chose uniquement qui se passe au niveau des travailleurs et que toute la société se rende compte qu'une bonne société...
C'est ce qu'on attend. Dans la première assemblée, il y a eu des comités de patients qui sont venus. Après, faire un mouvement constant est toujours difficile. Donc, faire que le mouvement soit tout le temps en train de bouger de manière constante n'est pas facile. Mais voilà, on appelle en tout cas à que tout le monde puisse venir aux assemblées et au mouvement, qu'on veut un mouvement large pour la santé.
Et justement, tu faisais tout à l'heure le lien avec le fait que ça avait été initié lors de la grève des femmes de l'an dernier. Qu'est-ce que la médecine fait aux femmes actuellement et qu'est-ce que le milieu de santé fait aux femmes? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques pour les femmes par rapport à toute une série d'aspects? On en entend beaucoup parler aussi. Toi, de l'intérieur, comment tu vois ça?
Beaucoup du travail de la santé, c'est-à-dire beaucoup du travail de, de soins dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans tous les endroits où on fait des soins, la profession est très très féminisée, et donc ça veut dire que c'est un endroit de travail où il y a beaucoup de flexibilisation, où on vous change les horaires un vendredi pour un samedi, où la plupart des gens travaillent à 3/5e temps ou à 4/5e temps, justement pour pouvoir gérer avec la vie de famille. Il y a très peu de respect des congés de maternité, il y a beaucoup de personnel de santé qui n'est pas écarté ou qui est justement replacé. Et donc, c'est un secteur qui va être spécialement atteint parce qu'il existe une population féminine plus importante dans le travail. Et donc, c'est beaucoup de travail aussi précaire dans tout ce qui est auxiliaire, tout le travail de nettoyage, toute une partie des techniciens, qui vont être des travails précaires et qui affectent spécialement donc aux femmes.
Et au niveau, c'est pour l'aspect travailleur, au niveau des patients aussi, est-ce que les femmes sont plus affectées par justement les coupes budgétaires? On parlait tout à l'heure des maternités justement, est-ce que ces coupes budgétaires sont aussi gender blind, je vais dire? Est-ce que...
Alors, on sait que déjà dans l'accès des soins de santé, l'accès des femmes, les femmes vont avoir un accès qui est diminué déjà aux soins de santé, et les coupes budgétaires vont clairement dans ce sens. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a diminué le temps d'être à la maternité pour des femmes qui en avaient probablement besoin. Le suivi est beaucoup plus difficile au niveau de la santé des femmes, et chaque fois il y a beaucoup moins de remboursement de médicaments, généralement aussi des pathologies qui affectent plus des femmes ou des pathologies chroniques pour lesquelles maintenant il existe de moins en moins de remboursement. Donc il y a clairement des coupes qui affectent plus et qui majorent la précarité en santé aussi des femmes.
Et bienvenue Alicia qui nous a rejoint.
Bonjour Zoé, bonjour à toutes et à tous.
J'avais une autre question et elle m'a échappé par rapport à cette mobilisation de santé en lutte. Est-ce que c'est quelque chose qui a émergé plus ou moins spontanément, ou est-ce que le soutien des syndicats est justement primordial, et est-ce qu'ils sont à la base de cette mobilisation, ou justement ça a été mouvement spontané?
Le mouvement de santé en lutte n'a pas été l'initiative des syndicats. Et ça a été un peu aussi un rôle ras-le-bol de la peu de mobilisation qu'il y avait au sein des syndicats. Et donc, dans le mouvement de santé en lutte, on a des délégués syndicaux ou des syndicats qui appuient et autres. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'appui au niveau syndical, mais est né plutôt d'un ras-le-bol. Et ce n'est pas... C'est-à-dire que les personnes qui participent dans la santé en lutte ne viennent pas en représentation du syndicat. Généralement, c'est une participation individuelle, comme délégué syndical ou autre. Donc, il y a un appui, mais ce n'est pas un mouvement syndical. C'est un mouvement plutôt qui est né de toutes les gens d'un ras-le-bol de toutes les coupes budgétaires, de toute la précarisation du travail, toutes les difficultés, et de cette déshumanisation de la santé aussi.
Et justement, ça fait un peu le lien avec la grève des femmes, justement, qui est aussi née d'un ras-le-bol des femmes qui ont voulu dire « ça suffit maintenant, que ce soit les mouvements en Amérique latine ou ici en Belgique, on en a marre et on veut trouver notre juste place ». Et mouvement qui n'a pas non plus attendu vraiment que les syndicats se mobilisent aillent de l'avant. Et donc, toutes les deux, vous faites aussi partie du collectif 8 mars, et qui a cette année-ci appelé à une grève non pas de 24 heures mais de 48 heures. Et donc cette année-ci, le 8 mars tombe un dimanche, et donc l'idée c'est de faire grève le dimanche et le lundi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet appel à la grève?
Oui, donc effectivement, cette année, nous appelons à 48 heures de grève, dans le sens où effectivement, ça tombe un dimanche. Et donc la question qui s'était posée en assemblée était justement, est-ce que ça valait le coup de le faire un dimanche ou un lundi, en sachant que voilà, dans l'imaginaire de tout un chacun, effectivement, le dimanche n'est pas un jour de travail, sauf que il y a quand même énormément de personnes qui travaillent le dimanche, notamment des femmes, parce que quand on parle de travail le dimanche, c'est généralement pas mal de secteurs précarisés, dont le secteur de la santé, pas, comme on vient de l'entendre, mais aussi tout ce qui est les commerces, les supermarchés, les commerces qui ont décidé d'une fois par mois ouvrir le dimanche parce qu'on n'a pas le temps d'acheter des vêtements en temps normal. Et donc voilà, un dimanche par mois, ce sont les commerces, c'était presque une obligation. Et donc une réclamation des vendeuses. Qui plus est, il y a aussi, pour mettre l'accent sur les grèves étudiantes, il y a notamment aussi les jobs étudiants qui sont mis à l'avant le dimanche et qui parlent aussi de toute la précarisation de la situation étudiante et du devoir absolument travailler quand on devrait être en train d'étudier justement pour pouvoir payer ses études. Voilà, et puis parmi les quatre axes de la grève, on retrouve aussi le travail domestique, le travail du care, et effectivement, le dimanche, c'est le jour par excellence dans lequel on va au marché, on fait les courses, on cuisine pour la semaine, on s'occupe de la maison, etc., etc., etc. Et donc, voilà, on tenait à mettre un petit peu en évidence cette partie-là du travail des femmes. Et puis le lundi est toujours aussi un jour où on travaille. Donc voilà, on parle aussi de la double journée de travail des femmes. Et voilà, donc la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler par conséquent à 48 heures de jour de grève. Et nous ne sommes pas les seuls, hein, nous ne sommes pas les seuls en Europe qui appelons à 48 heures de grève. Effectivement, il est peut-être un peu plus difficile d'avoir les syndicats derrière nous, mais on y travaille. On va bon train, donc on y arrive.
Et justement, par rapport au côté international, on se rappelle que cette grève des femmes, que ce soit celle qui a eu lieu en Espagne il y a 2 ans, enfin, et l'année passée aussi, mais toutes sont une réponse à un appel international. Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce que vous avez déjà des informations de ce qui est prévu un peu partout dans le monde?
Donc, depuis quelques années, le 8 mars est devenu vraiment une date très, très, très importante féministe au niveau international, avec vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, il faut dire qu'actuellement, il y a plus de 40 pays qui ont refait l'appel à faire grève le 8. Il y a quelques pays comme l'Italie qui ont décidé de faire le 8 et le 9. Et il y a, après ça dépend beaucoup, par exemple en Espagne, ils ont décidé de faire un mois de mobilisation. Et donc chaque semaine va faire un axe de la grève. Mais il y a quelques villes et quelques provinces d'Espagne qui vont faire la grève le 8 et le 9 aussi. Et donc actuellement, ce qu'on est en train de faire, l'enjeu au niveau international, c'est essayer de se communiquer et de pouvoir diffuser ce jour-là tout un peu un extrait de ce qui se passe ou en Espagne, ou en Italie, ou en Argentine, ou en Amérique latine, ou en Suisse. Et donc on va essayer de faire un programme radio de toute la journée qui diffuse aussi ce qui se passe au niveau international. Depuis plusieurs années, le mouvement féministe a un peu plus, c'est-à-dire avec la quantité de femmes qui se sont mobilisées pour le 8 mars, mais commence à avoir un impact aussi sur les décisions. Par exemple, en Espagne, elles sont en train de créer vraiment un mouvement pour une valorisation du travail domestique sous-payé ou de nettoyage sous-payé, un peu comme ici en Belgique, il y a la mobilisation des personnes qui travaillent au titre service. Mais en Espagne, la mobilisation est très forte actuellement et le mouvement féministe a décidé de prendre ça en priorité. Donc un peu au niveau international, le travail du travail domestique, payé, non payé, le travail du care et la situation précaire des femmes qui travaillent dans ça, qui sont surtout des personnes migrantes, est très très visualisée. Donc c'est un peu le programme, mais donc oui, il y aura une énorme grosse manifestation internationale un peu dans tous les pays et actuellement 40 pays ont déjà fait l'appel de grève.
Et c'est précieux justement d'avoir ces contacts internationaux. Est-ce que ça renforce le mouvement ici en Belgique de pouvoir s'appuyer sur...
Mais je pense que déjà dans le collectif, le fait de venir quelques-unes de plein d'endroits du monde, parce qu'on a des femmes qui viennent d'Italie, d'Espagne, d'Amérique latine, enrichit beaucoup le mouvement. Et je pense que d'avoir cette connexion internationale fait vraiment un très très grand appui, et savoir voilà, qu'on n'est pas toute seule, que c'est un mouvement international, que c'est un appel à grève internationale, c'est vraiment une des choses fortes du 8 mars.
Je pense aussi qu'il y a un caractère de légitimité, dans le sens où peut-être quand on perd un petit peu pied dans la réalité belge qu'on connaît, c'est-à-dire les différentes régions ou les différents arguments que l'on pourrait retrouver en face qui tentent de nous décourager, parce que c'est aussi une réalité, pouvoir se rappeler effectivement qu'il y a d'autres pays où les syndicats appellent grève, où ça n'a pas été facile, où ils suivent quand même, où les mouvements sont plus grands, plus forts, et donc voilà, ça, oui, effectivement, les liens internationaux renforcent dans ce sens-là. Et puis un énorme apprentissage des féministes d'autres pays qui, elles, ont peut-être plus d'expérience, mais en tout cas un enrichissement autre. Et voilà.
Et par rapport à l'an dernier, quels sont un peu les apprentissages justement que le mouvement féministe a pu tirer, et aussi les victoires? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont pu bouger par rapport à l'an dernier? Est-ce que ça paye déjà un peu
Je pense qu'au niveau international, comme je disais, c'est chaque fois c'est un mouvement qui s'engage dans des thèmes et qui n'est pas seulement un jour de grève, sinon que la grève devient un outil pour pouvoir travailler, discuter dans les quartiers, dans des espaces où il n'y avait pas. On parlait moins de politique et qu'actuellement, le féminisme permet de pouvoir discuter au sein des quartiers, des bases, des écoles, des endroits de travail et pouvoir s'implémenter sur des questions importantes, les questions du travail précaire, les travails des coupes budgétaires, mais aussi de la migration. C'est des thèmes qui se revoient un petit peu dans tout le monde. Ici en Belgique, de dire vraiment qu'il y a un acquis particulier, je ne vois pas comme ça, mais je pense en tout cas des personnes avec lesquelles dans la rue on en a déjà discuté, il y a peu de personnes qui n'ont pas entendu parler. Et donc ça, je crois que déjà sentir que c'est quelque chose que les femmes connaissent. Et après, il y a beaucoup de secteurs en Belgique qui sont en train de se mobiliser cette année et qui ne se sont pas mobilisés l'année passée. Il y a Vie Féminine qui a appelé à faire la grève du 8 mars et qui est en train de se mobiliser dans tous les petits recoins de la Belgique pour la grève. Et je crois qu'il y a au moins cette énergie de que ce n'est pas la première fois, mais que c'est une continuation et aussi un travail plus au long cours qui s'installe. Donc le collectif 8 mars a aussi participé au cours de l'année à plusieurs à un travail plus de d'appui sur les luttes existantes, sur les mouvements existants, et que c'est plutôt on commence un travail un peu à long cours et pas seulement de une journée qui est le 8 et le 9 mars cette année-ci.
Je propose une mini pause musicale et puis on parlera, on est presque à un mois là tout juste, donc du compte à rebours qui va commencer dès ce vendredi. Et vous nous expliquerez. On écoute Tango della Femminista. Ça nous vient d'Italie.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada a tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Tango della ribellion. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Ah, tango della femminista. Tango della ribellion.
Voilà, c'était Tango della Femminista, et donc c'est une chanson qui met la patate. Alicia, Malika, du collectif 8 Mars, on évoquait tout à l'heure le fait que cette année-ci, l'objectif était aussi de sensibiliser, de toucher un maximum de femmes dans les quartiers et aussi au niveau local. Et donc cette année-ci, il y a un groupe Bruxelles qui s'est mis en place du collectif 8 Mars. Qu'est-ce que vous avez déjà organisé comme action et surtout, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines et où est-ce qu'on peut se mobiliser et s'informer?
Alors effectivement, oui, il y a un groupe qui s'est créé à Bruxelles pour s'occuper exclusivement de la sensibilisation à Bruxelles, des activités à Bruxelles, de l'organisation de ce que sera le 8 et 9 mars à Bruxelles. On n'est pas les seuls, hein. Y a un groupe à Liège, il y a un groupe à Gand, il y a un groupe à Anvers qui était déjà constitué, et ça grandit, mais à un niveau national. Donc ça c'est chouette, ça c'est le bon point de cette année 2020. À Bruxelles plus spécifiquement, alors on est à 2 jours du début du compte à rebours avant la grève du 8 mars, et comme on va démarrer ce compte à rebours, on s'est dit que la meilleure façon de se rencontrer, de pouvoir s'informer, de lutter, eh bien, c'était de faire la grosse, grosse teuf. Et donc, ce vendredi, on organise une fête assez grande qui aura lieu à Nastmotnik, pardon, au Quai de l'Industrie, à Anderlecht. C'est une chouette occupation, c'est un lieu queer qui est ouvert assez récemment et qui voilà, nous ouvre ses portes, ouvre les portes au collectif 8 Mars avec 2 étages de kermesse, de DJ, de concerts, de repas, de bars, etc., 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 avec des coins de tout type et divers, voilà, pour pouvoir s'informer, pour pouvoir parler, pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir commencer à s'organiser réellement. On s'est dit que c'était vraiment voilà, la meilleure façon de démarrer les choses.
Et oui.
Et donc aussi, depuis déjà la semaine passée, on a décidé à Bruxelles de faire une permanence tous les vendredis. Et donc, c'est quoi une permanence? C'est pouvoir venir se rencontrer, avoir du matériel qu'on peut mettre une affiche, des flyers dans le travail, mais aussi savoir c'est quoi ce type de grève, comment est-ce qu'on peut faire grève, comment est-ce qu'on peut demander à notre employeur de faire grève, à notre syndicat, ou comment se mobiliser tout simplement. On essaye chaque vendredi de pouvoir aussi rencontrer un secteur qui est ou en mobilisation ou un secteur de femmes ou qui soit précaire ou qui se mobilise. Donc le dernier vendredi, on a fait une permanence où il y avait justement la santé en lutte qui était là. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir rencontrer les personnes qui racontent leur quotidien, qui racontent comment est-ce que justement dans cette dernière année de mobilisation de la santé en lutte, elles ont pu grandir et elles ont pu se rendre compte de plein de pouvoir qu'avait la mobilisation. Et donc, on va continuer tout le vendredi, c'est-à-dire à partir du prochain vendredi, c'est-à-dire le 14 février. Le 14 février, il y aura la Ligue des nettoyeuses sans papier qui va être là, avec lesquelles on va discuter, en plus de, bien sûr, prendre un verre, manger, il y a une auberge espagnole, et de voir les affiches, faire des ateliers. Il y a aussi des actions de collage d'affiches, ou de pouvoir faire des pochoirs pour pouvoir aller décorer la ville et autres choses qui sont également prévues. Mais on a aussi d'autres activités. Il y a le 13 février, une soirée rencontre avec une petite projection et une lecture de textes féministes qui vont traiter l'invisibilité du travail reproductif. Ça sera à la Vieille Chéchette le 13 février. Et le 20 février, on a aussi une rencontre avec les étudiants de Saint-Louis de droit, où ça sera une soirée pour pouvoir parler de la grève. Et bien sûr, on prépare pour le 8 et le 9 des grosses journées de mobilisation. Le 8, on fera une occupation de l'espace. On est en train d'essayer de voir le lieu à définir, mais on fera vraiment une occupation toute la matinée avant de partir en manifestation. Ça sera une manifestation très très grande et très active de la part du collectif. Et le 9, on va essayer avec un bus d'aller dans tous les endroits qui se mobilisent le 9, et donc d'aller visualiser justement tous les secteurs qui se mobilisent, même si elles ne font pas grève, de pouvoir visualiser les femmes qui s'arrêtent, les femmes qui tractent dans les entrées, les femmes qui soutiennent la grève. Et donc on invite à toutes se mobiliser pour le 8 et le 9, et de bien sûr nous venir nous rencontrer pour savoir comment se mobiliser.
Alors, dans la pratique, la Vieille Chéchette, donc le 13 février, c'est sur l'invisibilité du travail reproductif. Ça se passe, la Vieille Chéchette, c'est à Saint-Gilles, rue du Monténégro, 2-6. C'est tout près de la place Bethléem. Donc, voilà. Et nos permanences ont lieu à la chaussée d'Anderlecht, numéro 4.
Rue d'Anderlecht.
Rue d'Anderlecht, voilà. Ça, j'étais pas sûre. Donc la rue d'Anderlecht numéro 4 au local de la JOC. Voilà.
Et je voulais aussi... Vous avez dit qu'il y avait des collectifs un peu partout en Belgique aussi qui se mobilisaient. Et justement, ce dimanche a lieu l'Assemblée nationale qui aura lieu à Liège, je pense.
Oui.
Si j'ai bien...
Tout à fait.
Bien vu.
Tu as bien vu.
Et donc, il y a déjà une assemblée qui a eu lieu à Anvers, une autre, et donc celle-ci aura lieu à Liège. Et donc, ça montre aussi...
Le caractère...
décentralisé.
Oui, décentralisé, c'est plus beau. C'est plus beau, effectivement. Oui, donc l'idée était justement... On y avait réfléchi, hein, parce que on disait justement que peut-être de toute part de la Belgique, Bruxelles était quand même le lieu le plus accessible pour qu'on puisse avoir du monde de partout. Mais finalement, en fait, ça reste quelque chose de centralisé. Et donc, on s'est dit qu'autant aller voir les femmes qui se mobilisent dans les différentes villes, d'où la raison pour laquelle nos assemblées générales ont commencé à bouger un petit peu. C'est très chouette, parce que l'assemblée à Anvers nous a permis de rencontrer des femmes qui, sans doute, n'auraient pas pu bouger jusqu'à Bruxelles. Et j'espère que cette fois-ci, à Liège, ce sera à peu près pareil. Et puis, c'est un renouveau d'énergie aussi. Ce sont des femmes différentes, avec d'autres, peut-être pas d'autres intérêts, mais en tout cas... Voilà, une autre façon d'agir, de se mettre en action, de rêver une grève peut-être différente. Et donc, c'est toujours très chouette de faire ce type de rencontre.
Donc, on invite à toutes celles qui veulent aller à Liège. Ça sera l'après-midi, ça commence à 13h. On fera un énorme départ groupé de Bruxelles. Mais je sais que aussi d'autres villes, ils sont en train de faire un départ groupé pour pouvoir avoir des tarifs avantageux pour pouvoir y aller. Et c'est vraiment un peu aussi notre compte à rebours de dire, OK, mais maintenant, on a un mois. Comment est-ce qu'on mobilise un petit peu partout en Belgique? Et surtout que ces groupes qui sont bien implantés déjà dans plusieurs villes, mais qui sont chaque fois naissants, donc il y a des groupes aussi à Tournai, à Limbourg et dans parfois des petites villes qui sont en train de naître et qui, on va essayer de se rencontrer toutes pour pouvoir mobiliser et dire que le vendredi, c'est-à-dire le samedi à Liège, il y a aussi des ateliers qui se font sur la colonialité, le racisme et la blanchité qui se font à Liège et qui sont organisés aussi par les filles du collectif avec la maison arc-en-ciel de Liège. Et donc, allez à la page Facebook pour avoir plus d'informations.
Et le temps a filé. Et donc là, avant qu'on nous coupe la chic, merci beaucoup Alicia et Malika d'être venues. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.